07 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Mauriane Emo, musicienne. En 2023, j'ai eu la chance de remporter le prix RFI Instrumental, le concours international d'illustration sonore. Une expérience incroyable qui a donné un nouveau souffle à mes créations. Cette année, le prix fête ses 10 ans. Vous êtes musicien, monteur, réalisateur. Candidatez avant le 13 mars sur RFI Instrumental en cliquant sur prix.
Soutenu par le programme Africa Creative Sounds de l'Institut français, en partenariat avec Lina, Adobe et Aprime Publishing.
RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et à la une de votre journal, Édouard Dupénoit, la possibilité d'un procès pour Achraf Hakimi.
Oui, l'international marocain qu'une jeune femme accuse de viol depuis 3 ans, la justice demande la tenue d'un procès, son avocate fait appel. Procès au Burkina Faso, des peines jusqu'à 2 ans de prison prononcées dans une affaire de corruption où certains membres du corps judiciaire se seraient fait graisser la patte par des douaniers eux-mêmes corrompus. On parle de Sierra Leone dans ce journal. D'une part parce qu'un nouvel incident frontalier l'oppose à la Guinée, d'autre part parce que Freetown accueille les chefs d'état-major de la CDAO.
Et puis le dossier de cette édition, le Sénégal se met en ordre de marche pour récupérer ses œuvres spoliées.
Où sont-elles? Comment les retrouver? Comment les récupérer et les ramener au pays? Des chercheurs, des universitaires, des conservateurs de musées mettent en commun leurs expériences et leurs savoir-faire.
Achraf Hakimi en passe d'être renvoyé devant la justice pour des accusations de viol.
L'international marocain qu'une jeune femme accuse donc de l'avoir violé il y a juste 3 ans, fin février 2023. L'avocate du joueur, superstar du Paris Saint-Germain, prix Marc-Vivien Fauré et RFI France 24 l'année dernière, fait savoir qu'elle a immédiatement interjeté appel de ce renvoi en procès. Nous sommes descendus dans les rues de Casablanca pour voir comment ce possible procès était reçu. C'est un reportage RFI de Mathias Reynal.
Il presse des oranges dont il vend le jus pour la rupture du jeûne. Ce fan de foot, la trentaine, est persuadé qu'Achraf Hakimi n'a rien fait.
Il est gentil, c'est une bonne personne, il n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de lui mettre sur le dos. De toute façon, la justice va suivre son cours.
Pour l'instant, l'image du footballeur reste intacte dans le royaume.
Les gens, ils voient Hakimi comme le fils de tout le peuple marocain. C'est un exemple pour tous les jeunes.
Une jeune femme fait ses courses, elle ne regarde pas le foot, mais elle a tout de même suivi l'affaire de loin, comme beaucoup de Marocains. Impossible de passer à côté dans le royaume. Alors ce procès...
C'est une bonne chose pour que tout soit réglé une fois pour toutes. Personne n'est au-dessus de la loi. Elle est la même pour une personne normale ou un joueur de foot. Comme la justice marocaine, la justice française est impartiale. On espère qu'il sera blanchi.
Il n'y a pas encore de date pour le procès d'Achraf Hakimi, qui sera sans aucun doute très suivi au Maroc. Mathias Reynal, Casablanca.
Et en cas de rejet de son appel, justement, Achraf Hakimi comparaîtrait donc devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Commentaire lapidaire de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, c'est entre les mains de la justice, disait-il hier. Alors justement que les Parisiens jouent ce soir leur avenir en Ligue des Champions. Match retour face à Monaco, 20h TU, soirée spéciale sur les antennes de la Radio du Monde. Pour suivre aussi la rencontre entre le Real de Madrid et le Benfica Lisbonne, soirée que vous vivrez aussi, et c'est une première. Sur la chaîne YouTube de RFI en direct, les caméras braquées sur Babacar Diarra qui sera aux commandes. 2 nouvelles journées de négociations viennent de s'achever à Washington autour du Sahara occidental avec les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie. Étaient présents également les représentants du Front Polisario, le tout sous la houlette de Massad Boulos, conseiller spécial du président Trump. Rien n'a filtré de ses pourparlers. Le verdict rendu au Burkina Faso dans le dossier épineux des magistrats, avocats, douaniers accusés de corruption. Le TGI de Koupéla prononce des peines contre 7 personnes, allant jusqu'à 2 ans de prison et plusieurs millions de francs CFA d'amende. C'est une affaire où ce corps judiciaire était accusé de s'être laissé acheter par des douaniers eux-mêmes poursuivis, Frédéric Garat.
Reconnu coupable par le tribunal de grande instance de faits de corruption d'agents publics ou bien de complicité de révélation illégale d'identité de témoins protégés, ils sont 7. 7 sur 10 prévenus à se voir donc infliger des peines de 15 à 24 mois d'incarcération, dont 2 à 12 mois de prison ferme. Peine assortie d'amende entre 2 et 5 millions de francs CFA, soit 3 000 à 7 500 euros. Les autres accusés, un magistrat, un douanier et un avocat, ont été relaxés. Ce procès a été initié le 16 janvier dernier suite à des faits de corruption de douaniers qui, dans une autre affaire, ont tenté d'acheter financièrement les faveurs et la clémence des juges. Si le verdict est désormais prononcé, il y aurait beaucoup à redire, selon certains observateurs, sur la méthode et l'instruction du procès de Coupella. Ainsi, lors de son audience, le magistrat Mohamed Traoré a fait part de l'enlèvement, de la séquestration et d'actes de torture dont lui et certains de ses co-accusés ont fait l'objet pour qu'on leur soutire des aveux attestant de leur culpabilité.
Frédéric Garat.
Entre la Sierra Leone et la Guinée, un incident frontalier, oui, mais lequel ?
Ce qui est sûr, c'est que plusieurs militaires et policiers sierra-léonais ont été appréhendés par les forces de sécurité guinéennes. Que cela s'est passé il y a 48 heures entre les districts sierra-léonais de Faraba et guinéens de Koudaïa. Ce qui est beaucoup moins sûr, c'est l'origine de ces interpellations puisque les deux capitales donnent une version bien différente, Lisa Fabian.
Des soldats sierra-léonais sont-ils entrés sur le territoire guinéen en toute illégalité ou au contraire des militaires guinéens ont-ils traversé la frontière pour arrêter des membres des forces de sécurité sierra-léonaises ? C'est le ministère de la Communication de Sierra Leone qui a d'abord confirmé l'arrestation par les forces armées guinéennes de plusieurs membres d'une équipe conjointe composée de militaires et de policiers sierra-léonais. Selon ce communiqué, ceux-ci se trouvaient dans la ville de Kaliéré où ils étaient chargés de la construction d'un poste frontière. Ces hommes, dont un officier, ont été emmenés en territoire guinéen où leurs armes et leurs munitions ont été confisquées. Alors que les autorités sierra-léonaises disent vouloir régler cette affaire à l'amiable, l'état-major général des armées de Guinée a confirmé à son tour l'arrestation de 16 éléments militaires sierra-léonais. Ils sont accusés d'avoir pénétré sans autorisation sur le territoire guinéen et d'avoir installé une tente et hissé leur drapeau national de l'autre côté de la frontière. L'état-major guinéen appelle donc les forces de défense et de sécurité de leur pays à rester mobilisés pour la défense et la protection de l'intégrité territoriale. Je cite.
Lisa Fabian et les principales hiérarchies militaires concernées vont avoir l'occasion d'en parler, les yeux dans les yeux, puisque la Sierra Leone accueille justement et jusqu'à vendredi une réunion des chefs d'état-major des pays de la CDAO. Il s'agit en fait de parler de la force en attente de cette communauté ouest-africaine. Les hauts gradés aimeraient constituer un premier contingent entre 1600 et 2000 hommes d'ici la fin de l'année et dans la mesure du possible de le faire en bonne intelligence avec l'Alliance des États du Sahel, principale concernée par la menace terroriste. Correspondance régionale Serge Daniel.
Sur la photo de famille de la cérémonie d'ouverture de la rencontre, tous les chefs d'état-major conviés n'étaient pas présents. Le général Amara Idara Bangoura, chef des forces sierra-léonaises qui recevait ses frères d'armes de la sous-région, a tenu à rassurer dans son intervention. Aucun pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est opposé à la mise sur pied rapide de la force en attente, bien au contraire. Au cours de la rencontre, chaque pays devrait annoncer le nombre de soldats qu'il mettra à la disposition de la force. On s'attend dans une première phase à près de 2000 hommes mobilisés. Dans les couloirs de la réunion, des voix se sont déjà levées pour marteler. Nous devons d'abord compter sur nos propres ressources au lieu d'attendre un financement extérieur. Fin de citation. L'ambition est de mobiliser avant la fin de l'année en cours un premier contingent opérationnel pour faire face à la menace terroriste dans le collimateur, les djihadistes de l'État islamique au Sahel et ceux affiliés à Al-Qaïda. Leur progression vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest inquiète également. Au centre des discussions, la coopération avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays dirigés par des militaires qui ont claqué la porte de la CEDEAO pour créer l'Alliance des États du Sahel.
Serge Daniel, Juan Gomez et les équipes d'appel sur l'actualité vous attendent tout à l'heure sur ce sujet. Est-ce que ce projet de force en attente est crédible ? Est-ce que la coopération avec l'AES est possible ? Vous appelez le standard dès 8h10 en temps universel.
La question de la restitution des œuvres d'art à leur pays d'origine revient en force dans les débats publics et c'est le dossier de ce journal, Edouard.
À l'heure où la France rend le Jiji Ayokwe à la Côte d'Ivoire, à l'heure où les Sud-Africains de Nayamkop publient Relooted sur la plateforme Steam, on regarde ce matin au Sénégal où s'ouvre un col- colloque dont le nom est explicite, Souveraineté et restitution des œuvres culturelles. Ces derniers jours, des chercheurs, des conservateurs de musées, des étudiants ont ainsi tenu une session d'échange sur la manière d'identifier ces œuvres, les biens sénégalais qui sommeillent à l'étranger, comment les trouver, comment demander formellement leur retour, des échanges que suivait Juliette Dubois.
Par petits groupes, dans les salles du centre, les participants s'initient à de nouvelles méthodes d'enquête. Utiliser les bases de données, retracer les provenances, documenter les trajectoires des objets. Pour Mordiouf, doctorant en archéologie à l'UQAD, cartographier les œuvres culturelles dispersées est un préalable indispensable.
On nous a monté un site qui s'appelle Le Monde en Musée. À travers ce site, on peut aussi relocaliser tous les biens sénégalais qui sont exilés en extérieur. Quoi. Nous essayons à faire la cartographie et après l'aider, on va essayer de voir quels sont les objets qui nous intéressent, quels sont les objets qu'on va restituer. Et une fois cette restitution, comment on va les conserver ?
Abdourahmane Kounta travaille avec ses camarades sur un manuscrit de commentaires du Coran, mais il ne dispose que d'une copie numérique, car le document original est à la Bibliothèque nationale de France.
Ce serait très intéressant de disposer de cet ouvrage-là, qu'on puisse savoir l'importance qu'a occupé l'exégèse coranique au sein de nos érudits, surtout la géomortale.
Les participants à cet atelier espèrent que leurs recherches pourront peser dans le débat public. Boussotop du musée historique de Gorée.
Ces études-là nous permettent non seulement de pouvoir faire un plaidoyer qui va peut-être être pris par les autorités compétentes pour pouvoir continuer les travaux sur le plan international.
Seules les autorités étatiques peuvent formuler des demandes officielles de restitution auprès des pays détenteurs. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Les sénateurs français ont bien approuvé il y a un mois un projet de loi cadre qui facilitera la restitution des œuvres parce que pour l'instant le compte est maigre, Paris n'a rendu que le sabre d'Eladjou Martal, tandis que le musée de Dunkerque a prêté des reliques de la bataille de Sambassadio. Face à ces processus très longs, les confréries religieuses du Sénégal jouent déjà un rôle essentiel, comme nous l'explique Mamaram Sek, il est à la tête du musée historique de Gorée.
Pour la communauté mourite, c'était clair. Hein, quand ils ont identifié quelque chose qui leur appartenait et qu'ils ont voulu voir revenir, ils n'ont pas à poser ça en termes diplomatiques. Ils sont simplement allés chercher donc, le propriétaire et l'acheter. C'est qu'aussi avec le projet de musée à Touba, certainement, la prochaine étape, ce sera d'aller essayer de récupérer tout ce qui leur appartient. Et une fois qu'ils auront identifié ces objets ou ces manuscrits ou ces archives, pour les amener à Touba. Je pense que le plus important à nos jours, c'est le fonds Archinar qui se trouve donc au Havre et dont les objets ont été bien identifiés par la communauté omarienne. Je ne sais pas s'il y a eu une demande officielle de la famille, mais l'identification et l'expression de ce besoin existent.
Mamaram Sek pour ce dossier réalisé par Juliette Dubois.
Et puis quelques jours encore pour tendre une oreille aux artistes RFI Découverte.
Ces 10 finalistes que notre antenne vous présente cette semaine encore. Où sommes-nous ce matin ? Entre le Bénin où il est né et le Sénégal où il crée, Sima Sam, 32 ans, batteur, chanteur qui publie un deuxième EP, Fila Yaro, j'ai grandi ici, en Wolof. C'est Carmen Lunsman qui nous le donne à entendre.
Sam est batteur, mais c'est sa voix qui frappe en premier. Par sa douceur, sa manière de raconter le monde avec simplicité et délicatesse. Que ce soit à travers les yeux d'un chauffeur de taxi qui tombe amoureux d'une cliente ou dans le titre Mikbe, refusé, où le bénino-sénégalais pointe les divisions qui blessent nos sociétés. Ancré dans la réalité du continent, Sim Sam consacre son premier EP Freedom de 2020 à la liberté, aux contraintes et aux espoirs de la jeunesse africaine. 5 ans plus tard, il chante le Sénégal avec son deuxième EP Fila Yaro. J'ai grandi ici en Wolof, le pays où il a fait ses premiers pas en musique, chant et percussion à 5 ans, puis clarinette et saxophone, jusqu'à un concours de batterie qui le révèle à 18 ans. Aujourd'hui, sa force, c'est le mélange. Un balar sénégalais teinté de funk, reggae, jazz, la musique du Bénin, le highlife ghanéen et l'amapiano sud-africain, le tout porté par la voix d'un batteur décidé à transmettre du courage et de l'espoir.
Hold my tibet, c'est ma lingère, my layoyer.
Et si c'est Sima Sam qui emporte votre adhésion, vous votez pour lui sur notre site musique.rfi.fr. 7h44 ici à Paris.
Merci Edouard Dupénois, à tout à l'heure. RFI, 6h44, en temps universel, la suite des RFI matin, c'est la revue de presse. Le tour de la presse africaine avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, Michael Ranjanirine, l'équilibriste.
Oui, c'est ce qui s'appelle jouer l'équilibriste, s'exclame le Monde Afrique. 5 jours après avoir été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, le nouveau président malgache, Michael Ranjanirine, a eu les honneurs de l'Élysée, où il a déjeuné hier avec Emmanuel Macron. Des visites coup sur coup qui illustrent la diplomatie tous azimuts que le colonel malgache entend pratiquer. Pour l'heure, Michael Ranjanirine, qui veut faire de sa politique pragmatique et non aligné un marqueur de sa présidence, n'estime pas avoir à choisir un partenaire plutôt qu'un autre. En fait, analyse la Tribune à Antananarivo, le récent rapprochement diplomatique entre Madagascar et la Russie, parfois célébré localement comme un acte de souveraineté et de non alignement, ce rapprochement dissimule de profonds enjeux géostratégiques. Pour une Russie sous sanction, l'intérêt est structurel, pointe le quotidien malgache. Moscou convoite le port en eau profonde de Diego Suarez pour projeter sa flotte, vise les minerais critiques, graphite, terres rares, uranium, et déploie son système financier alternatif pour contourner la surveillance occidentale. Cependant, tempère la Tribune, cette diplomatie multisectorielle est un champ de mine pour Antananarivo. La France, qui redoute une sahélisation de la région, tente de maintenir son ancrage stratégique vital dans l'océan Indien avec un pragmatisme prudent. Et surtout, ce pari expose la grande île à une riposte sévère de la part de Washington, note encore le quotidien malgache. En s'associant à des réseaux financiers russes sanctionnés, Madagascar risque en effet notamment l'exclusion de l'AGOA, ce qui menacerait directement plus de 100 000 emplois dans le secteur textile. Prise entre les grandes puissance, la Grande Île pourrait bien devenir le théâtre d'une nouvelle guerre froide plutôt que de conquérir sa véritable indépendance.
Quand la route de Paris passe par Moscou, c'est ce que titre pour sa part le pays au Burkina Faso.
En moins de 10 jours, le colonel Michael Ranjanirine aura serré les mains de 2 présidents de la République, donc, qui sont loin de partager la même vision de la gouvernance et de la diplomatie. Antananarivo, entrée dans une nouvelle ère politique dont le rythme a été dicté par la Gen Z et soucieuse de diversifier son répertoire de partenaires, Antananarivo n'a trouvé aucun mal à déjeuner à Moscou et à prendre le dessert à Paris, sa table historique. Le nouvel homme fort de Tana a donc visiblement fait le choix de mettre ses œufs sécuritaires dans le panier russe, s'exclame encore le pays, tout en gardant ceux de la coopération classique sur le plateau français, ce qui n'est pas sans susciter des interrogations auprès de la société civile malgache, notamment le collectif des citoyens et la Gen Z.
En effet, complète Afrique.com, si cette hyperactivité diplomatique place Madagascar sous les projecteurs, elle suscite également des doutes au sein de l'opinion publique malgache.
Oui, des voix s'élèvent pour réclamer davantage de transparence sur les accords signés en coulisses. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes insiste sur la nécessité d'une redevabilité au retour du chef de l'État. De leur côté, les mouvements de jeunesse s'interrogent ouvertement sur les contreparties concrètes de ce rapprochement avec Paris, craignant que cette diversification des alliances ne cache des engagements flous ou contraignants pour l'avenir de la Grande Île.
Et pour Jeune Afrique, on assiste à une guerre d'influence entre Paris et Moscou sur le continent africain.
Oui, la France entend jouer sur ses atouts, convaincue de proposer une offre supérieure à celle de la Russie, au moins dans les domaines économiques et culturels. Premier partenaire bilatéral de Madagascar, avec près d'1 milliard d'euros d'échanges, la France dispose en effet d'un tissu économique composé de centaines d'entreprises et structuré par plus de 50 filiales dans les domaines des hydrocarbures, de l'agro-industrie, des télécoms ou encore des services financiers qui emploient de nombreux travailleurs locaux. Et plus largement, pointe encore Jeune Afrique, renouveler la relation politique avec Madagascar et les partenariats avec l'ensemble des pays africains est l'objectif principal du président Macron jusqu'au sommet Afrique-France de Nairobi qui aura lieu les 11 et 12 mai prochains au Kenya. Ce sera la première fois, note le journal, que la France organisera un tel événement dans un pays non francophone du continent. Signe de la volonté de Paris de diversifier ses partenariats africains à l'heure où la Russie, mais aussi la Chine, la Turquie ou encore les Émirats Arabes Unis contestent ce que la France percevait il y a peu comme son précaré inaliénable.
Frédéric Couteau, merci. On vous retrouve dans une demi-heure, la revue de presse internationale et à la une, les États-Unis vont-ils attaquer l'Iran ?
Oui, les États-Unis qui sont prêts à frapper si nécessaire. Pour la presse, nous le verrons tout à l'heure, les prochaines heures seront décisives.
À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'info ce matin, c'est ce record à nouveau battu par Donald Trump cette nuit aux États-Unis, 1h47 à la tribune du Congrès pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Il en a profité notamment pour accuser l'Iran de développer des missiles pouvant atteindre bientôt les États-Unis. Le président américain dit que sa préférence va à une solution par la diplomatie, même si un important déploiement militaire a été ordonné au Moyen-Orient par le chef de l'État. Ce discours sur l'état de l'Union, on le décrypte tout à l'heure avec notre invité Romuald Ciora, avec nous à 7h12, temps universel. L'Union européenne va accorder son prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'a assuré hier à Kiev la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, faisant référence au blocage de Budapest. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine, a annoncé lundi son intention de bloquer ce prêt si Kiev ne restaurait pas les livraisons de pétrole russe à travers le léoduc Droujba. En Israël, 19 ONG saisissent la Cour suprême pour faire inverser une décision. À partir du 1er mars, 37 organisations internationales humanitaires qui travaillent en Cisjordanie et à Gaza devront cesser leurs activités. Et puis le président de la FIFA, Gianni Infantino, serein au sujet de l'accueil par le Mexique de certains matchs de la Coupe du Monde 2026. Il réagissait après la vague de violence dans le pays liée à la mort d'un puissant baron de la drogue tué par l'armée mexicaine. Le Salon international de l'agriculture bat son plein à Paris et la 62e édition de ce grand rendez-vous a pour invité d'honneur cette année un pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, puissance agricole. Du haut de son statut de premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, le pays fournit à lui seul 40% du cacao mondial. Mais depuis l'an dernier, les cours sont en chute libre, conséquence des milliers de tonnes d'invendus restent sur les plats sur les bras des planteurs. Alors la Côte d'Ivoire va-t-elle être obligée de vendre son cacao moins cher? Elle ne l'exclut pas pour l'instant. Notre grand invité Afrique ce matin est le nouveau ministre ivoirien de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, répond aux questions de Sidi Yansané.
Bonjour Bruno Nabagné-Koné.
Bonjour Sidi.
La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur du Salon de l'Agriculture de Paris cette année. Quels sont les principaux atouts de la production ivoirienne que vous comptez mettre en avant durant cet événement international?
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou, est le premier producteur africain d'EVA et dans le top 5 des pays africains producteurs de palmiers à huile, de coton, de karité, etc., etc. Nous participons au Salon de l'agriculture depuis une trentaine d'années. Et puis cette année, nous avons eu le privilège d'avoir été désigné pays invité d'honneur. Donc nous sommes heureux de le représenter avec ce titre-là ici.
Alors il y a une filière où vous n'êtes pas forcément leader pour l'instant, mais qui a connu un véritable bond depuis une dizaine d'années, c'est la filière avicole. Absolument. La production de viande de volaille qui a plus que quadruplé en une décennie. Une taxe de 9% vient d'être instaurée par les autorités ivoiriennes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un ralentissement de cette filière qui est en plein boom?
Je pense qu'il n'est pas anormal que la Côte d'Ivoire élargisse son assiette fiscale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des pays qui a le plus faible taux de fiscalisation dans la sous-région. Là où les instances de l'UMOA recommandent entre 18 et 20%, la Côte d'Ivoire est à 12-13%. Il faut savoir qu'il y a quelques années, nous étions très fortement encore importateurs de poulet, de volaille, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est totalement autosuffisante.
Revenons sur la crise du cacao que traversent actuellement les planteurs ivoiriens. Les cours des prix à l'international ont drastiquement chuté. De nombreux producteurs peinent à trouver preneur. Alors l'État ivoirien s'est engagé à racheter les stocks des invendus. Tout d'abord, où en est-on de l'acquisition de ces stocks invendus par l'État ivoirien?
Les enlèvements se font. 64 000 tonnes avaient déjà effectivement été levées. Il y a une quarantaine de milliers de tonnes qui sont en cours d'enlèvement, en collaboration d'ailleurs avec les organisations du secteur.
Du coup, comment l'État compte revendre ses stocks?
Ce sera le problème de l'État. Nous essayons de traiter cette équation de gros inconnus, équilibrer les finances du Conseil Café Cacao en faisant en sorte que les revenus des producteurs ne soient pas trop obérés.
Selon votre prédécesseur, cette acquisition s'élèvera à 430 millions d'euros quand même.
Peu importe la somme, le soutien de l'État a été assurée aux planteurs. Et il faut savoir que nous sommes dans un système de stabilisation. Ça veut dire qu'il y a une partie des ressources qui ont été acquises au cours des bonnes années qui continuent d'être dans les réserves du Conseil Café Cacao qui serviront partiellement à traiter la question.
Alors, Monsieur le Ministre, la semaine dernière, l'agence de presse Reuters annonçait, je la cite, que la Côte d'Ivoire envisage de suivre l'exemple du Ghana en baissant le prix de son cacao. Est-ce que vous confirmez l'information de l'agence Reuters ?
Des annonces seront faites par la Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Mais je pense que tout esprit rationnel comprend que dans cette situation, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix en face de lui.
Des informations, des détails concernant cette baisse éventuellement, un pourcentage, à quel moment est-ce qu'elle arriverait ? Est-ce qu'elle arriverait là pour les achats ?
Une annonce sera faite dans les prochains jours par le Conseil Café Cacao.
Donc pour la petite campagne ou pour la grande campagne de l'année prochaine ?
La grande campagne de l'année prochaine va s'ouvrir le moment venu. Donc là, il s'agit de prendre une décision sur deux choses. Premièrement, le stock résiduel éventuellement de la campagne principale passée et sur le stock de la campagne intermédiaire.
Le prix de 2800 francs CFA le kilo de cacao est effectivement un prix record fixé par l'État ivoirien. À cela, on peut ajouter aussi le différentiel de revenus décent qui est, si je ne dis pas de bêtises, une espèce de prime minimale de $400 sur la tonne que l'on attribue aux planteurs pour justement avoir un revenu décent, comme c'est dit. Mais finalement, est-ce que le cacao ivoirien n'est-il pas trop cher finalement ?
On ne peut pas aujourd'hui parier sur l'avenir de ce secteur en sacrifiant ceux qui sont à la base. Allez voir les planteurs ivoiriens. Voyez dans quelles conditions ils vivent. Et vous allez comprendre qu'il y a quand même besoin de les soutenir d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ce DRD, ce différentiel de revenus décent, a été décidé conjointement par le Ghana et la Côte d'Ivoire pour assurer ce minimum de revenus à nos paysans. Non, ça ne rend pas le cacao plus cher. Tout simplement parce que le cacao ne représente que 6% du produit final que vous consommez, vous, ici. Si ce produit final est dit cher, ce n'est certainement pas à cause de la matière première qui est le cacao.
Mourdou Nabagny-Koné, Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Je vous remercie.
Le ministre ivoirien de l'Agriculture au micro de Sidi Yansané, entretien à retrouver en version longue sur notre site RFI.fr. Bientôt 7h en temps universel et sur la radio du monde. Avant le prochain journal, votre sourire du matin, votre carte postale quotidienne du Gondwana avec Maman. On embarque ce matin, Maman, pour une visite guidée du campus de l'Université idéale de président fondateur.
Oui, mesdames et messieurs, nous, Gondwanais patriotes et reconnaissants envers notre leader bien-aimé, avons eu le cœur brisé de voir l'état dans lequel les manifestations des étudiants pour cause de non-paiement de leur bourse avaient mis son excellence président fondateur. Nous avons vu comment il a contre-cœur, envoyer sergent s'en fout la mort des autres, pacifier le campus. C'est pour cette raison que nous avons imaginé ce que serait l'université idéale de président fondateur. Allez, venez mes amis, venez avec moi pour une petite visite du campus de cette université pacifiée par les séides de notre leader bien-aimé. Regardez et admirez ce beau campus universitaire. C'est une ville dans la ville, que dis-je ? C'est un vrai petit village gondouanais, baignant dans la paix et la sérénité. Il y a des tam-tams suspendus aux arbres, des bancs en bois pour les discussion du soir, et au centre, un grand baobab qu'on appelle l'arbre du savoir obéissant. Sous ses branches, le wifi est libre. Les étudiants peuvent surfer à volonté uniquement sur les sites diffusant les discours de président fondateur, et ils peuvent aussi regarder les vidéos relatant sa bio en plusieurs épisodes, comme dans les séries Netflix. Ceux qui veulent juste parler, papoter avec leurs amis peuvent débattre à loisir de tous les sujets autorisés. La pluie, la saison des mangues et les bienfaits de la gouvernance de président fondateur. Chaque matin, la journée commence par une prière collective pour la stabilité nationale et la bonne santé présidentielle. Les griots du département de littérature entonnent des louanges en alexandrin pendant que les électriciens du campus tentent de rappeler à l'électricité qu'elle aussi a le devoir de servir la nation. Et la police ? Eh bien, la police n'a plus le droit de venir pour disperser les étudiants sur le campus. Non, non, non. La police accompagne les chants de paix, main sur le cœur et main sur la matraque, sourire tranquille. Les sirènes de la police ne hurlent plus, elles fredonnent l'hymne national. À la bibliothèque, chaque livre commence par une dédicace à notre leader bien-aimé. Certains volumes sont même en attente d'impression, le temps d'obtenir sa bénédiction finale. Quant au repas à la cantine, c'est un vrai symbole d'unité gondouanaise. Le riz du nord, la sauce spéciale du sud, le poisson du fleuve, le rire des étudiants et le remerciement final pour le programme alimentaire présidentiel du vivre ensemble universitaire. La nuit, sous le ciel étoilé, étoilée, on entend les étudiants chanter à la guitare. Paix sur le campus, longue vie à président fondateur. Les étoiles brillent, les moustiques applaudissent et même les gardiens de nuit récitent les citations présidentielles comme des poèmes. Ainsi va la vie à l'université idéale de président fondateur, un lieu où tout le monde est d'accord, où la paix est obligatoire et où la sagesse des anciens se conjugue avec la patience des jeunes. À quelque part, dans son palais, président fondateur médite, satisfait de voir enfin une jeunesse tranquille. À demain.
À demain, Maman. Et merci. Bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez. En ce mercredi matin, l'info continue dans une minute. Il est presque 7h en temps universel.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Éric Mamrut.
Nous serons au Parc des Princes pour le barrage retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, mais aussi à Santiago Bernabéu pour la deuxième manche entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le Benfica Lisbonne de José Mourinho. Deux stades prestigieux pour deux matchs avec le même enjeu, une